Néo-Québec Chronique.
Alors, aujourd'hui, notre chroniqueur soccer, Paul Trinel. Bonjour Paul.
Salut Cyril, ça va ?
Ça va et toi-même ?
Très
aujourd'hui,
bien, très bien.
Paul, tu nous parles de l'équipe nationale du Canada, qui, pas plus tard qu'hier, a gagné un match très important. Juste le score pour
2-0.
2-0, voilà, contre Trinidad et Tobago. Donc là, je veux d'abord que tu me dises un peu, voilà, ok, ce match, en quoi est-ce qu'il était si important ? Je dis, c'est pas comme si on avait gagné la Coupe du Monde, là.
Non, Cyril, toi, c'est pas encore la Coupe du Monde. Effectivement, hier après-midi, la sélection nationale de notre cher Canada affrontait l'équipe de Trinité-Tobago au Toyota Stadium de Frisco, Texas.
Je rappelle que tu as le chandail.
J'ai le chandail, tout à fait. Floquier, Jonathan David, numéro 20. Ça n'a l'air de rien comme ça, hein, Trinité-Tobago, mais il faut savoir que le vainqueur de ce match gagnait le droit de participer à la prochaine Copa América.
Mm-hmm.
Alors, la Copa América, ouais, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est l'une des compétitions internationales de soccer les plus anciennes et les plus prestigieuses. D'habitude, elle ne concerne que les pays d'Amérique du Sud, donc des grandes nations de ballon rond que vous connaissez sûrement, comme le Brésil, l'Argentine, la Colombie, l'Uruguay.
Mmh.
Et cette année, la Copa se déroulera aux États-Unis. C'est comme une espèce de répétition générale pour la Coupe du Monde 2026 qui, comme vous le savez peut-être, sera,
se déroulera aux
États-Unis, Mexique et Canada.
Voilà.
Pour l'occasion, donc, 6 équipes de la Confédération américaine du Nord de football, de soccer, qu'on appelle la CONCACAF, mmh, ont été invitées à participer au tournoi. On aura donc les États-Unis, la Jamaïque, le Mexique, le Panama et pour les accompagner, le Canada et le Costa Rica qui se sont qualifiés hier. Donc voilà, heureusement dans un stade quasiment vide pour l'occasion, voilà, il était 16h, c'était pas trop, peut-être pas trop l'heure. Les Canadiens ont réussi à composter leur billet au terme d'un match un peu frustrant. On a vraiment ressenti la pression et la tension qui pesait sur les épaules des joueurs du coach Mauro Biello, légende, il faut le dire, de l'Impact de Montréal.
Tout à fait. Pourquoi c'était si important de se qualifier là pour la... Du moins, toute équipe aspire à se qualifier, mais pourquoi c'est là spécialement si important pour le Canada de se qualifier pour la Copa América ?
Cette Copa América, en fait, c'est un peu, comme je l'ai dit avec les équipes d'Amérique du Nord, un peu comme une mini-Coupe du Monde. C'est donc l'occasion pour nos Canadiens de se frotter aux meilleures équipes de la planète et de se confronter à un niveau d'adversité qu'ils connaissent peut-être pas forcément en Amérique du Nord. Le tout en plus avec un enjeu réel, ce qui change des simples matchs amicaux. Hein. C'est des matchs où on se qualifie pour quelque chose et à la fin, éventuellement, il y a un trophée. Et comme le Canada est qualifié d'office, comme je l'ai dit, pour la Coupe du Monde 2026, puisqu'il fait partie des trois pays hôtes, en tant que pays hôte, il n'a pas à jouer de matchs de qualification, seulement des matchs amicaux. Donc dans ces conditions, c'est un peu dur de se préparer à un challenge comme la Coupe du Monde quand on ne joue que des matchs
sans enjeu. Que des matchs amicaux sans enjeu, quoi, en fait.
Exact. Et donc, pour un petit peu de contexte, je rappelle à nos auditeurs que l'équipe masculine du Canada s'est qualifiée deux fois pour la Coupe du Monde, donc en 86 et en 2022. Et le bilan n'est pas très folichon, 6 matchs joués, 6 défaites et seulement 2 buts marqués.
Ouais.
En 2026, c'est à la maison, enfin à Toronto et à Vancouver. Hein. Donc on veut
un
faire
peu
mieux.
La maison.
C'est un peu la maison, mais on aurait quand même espéré, des matchs à Montréal.
Ouais.
Mais que veux-tu ? Donc on veut faire mieux, on doit faire mieux et on doit évidemment avoir l'ambition d'aller chercher au moins une première victoire en Coupe du Monde. La Copa, c'est donc la meilleure occasion de s'y entraîner. C'est aussi l'occasion de mettre fin à un cycle de mauvais résultats et juste de bad vibes autour de l'équipe. Sous la houlette du coach John Herdman, l'équipe avait réussi une brillante campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Ça, très bien. Après au Qatar, comme j'ai dit, ça s'est pas très bien passé. Que des défaites. Et 2023 a été vraiment une mauvaise année pour l'équipe. Lourde défaite contre les États-Unis, le grand rival, le voisin du Sud, en finale de Ligue des Nations. Défaite 4-1 contre le Japon en match amical. Et défaite au match au retour contre la Jamaïque qui a bien fait nous priver de la Copa América. Il est temps de relancer un nouveau cycle et d'aller de l'avant avec 2026 comme priorité absolue.
Quand on t'écoute, on a l'impression que tout, ça va, qualification, c'est parfait, on prépare, c'est comme une préparation à la Coupe du Monde, tu l'as dit, mais tout ne semble pas rose dans cette fédération Canada Soccer.
Ah non, et si tu me permets de paraphraser Shakespeare, je dirais qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de soccer Canada. Déjà, il y a des disputes salariales en cours entre la fédération et les équipes féminines et masculines. En juin 2022, ce qui commence déjà un peu à remonter, l'équipe masculine faisait la grève en refusant de jouer un match amical contre le Panama. C'est pas tout. En juin 2023, Jason DeVos, qui était à l'époque secrétaire général par intérim, avait même dit que la fédération évaluait la possibilité de se déclarer en faillite. C'est donc loin d'être un environnement apaisé.
Ouais.
Alors, ce qui cristallise les tensions, c'est l'accord signé entre la Fédération, Soccer Canada, et Canadian Soccer Business, ou CSB. En gros, l'entente permet à CSB de gérer le marketing des droits commerciaux et télévisuels des équipes nationales du Canada en échange d'un paiement annuel à Canada Soccer.
Okay.
C'est les sponsorships puis les droits télé en gros. Ouais. Le problème, c'est que ce montant, qui serait entre 3 et 4 millions de dollars canadiens, selon ce que j'ai pu trouver dans les médias, est fixe et ne dépend pas vraiment de ce que payent les partenaires commerciaux à CSB. Ça, c'est un problème. Le second problème, c'est que l'entente contiendrait une clause un peu dingue qui permettrait à CSB de prolonger unilatéralement, donc seulement si CSB en a envie, le deal jusqu'en 2038.
En maintenant le 3 à 4 millions seulement.
C'est ça. Donc dans, voilà, dans encore 14 ans de ça.
Ok. Quoi.
Alors, je vais être honnête, c'est très très flou. Tout le monde se contredit un petit peu et à mon avis, on n'a pas encore entendu le fond de l'histoire, le fond de l'affaire. En tout cas, ce qu'il semble, c'est que la fédération semble s'être engagée pour une durée extrêmement longue sans même avoir l'idée de demander un pourcentage, par exemple, des revenus générés par CSB. On le sait, le soccer, ça fait beaucoup d'argent, ça fait de plus en plus d'argent maintenant que c'est un sport qui grandit au Canada. Et 3-4 millions par an, c'est on va dire qu'on aurait pu en espérer plus.
Bah oui.
C'est donc à cause de ce deal directement que la fédération demeure empêtrée dans des disputes salariales avec ses joueurs et ses joueuses. C'est une affaire très complexe, mais voilà, ça a mené à des démissions en pagaille et on commence à peine à retrouver de la stabilité au sein des instances dirigeantes du soccer canadien.
Ouais, c'est vraiment pas de, de bon augure là, pour la suite, mais est-ce que dans ce cas, c'est vraiment donc une bonne chose que le Canada se soit qualifié. Qu'est-ce qui les attend cet été ?
Alors oui, revenons un peu au terrain, parlons un peu de football. Je parlais plutôt du besoin de se challenger et c'est exactement ce qui les attend aux États-Unis. Ils auront l'honneur de faire le match d'ouverture de la compétition le 20 juin prochain contre l'Argentine, championne du monde en titre, je rappelle, de Léo Messi. Pas mal quand même, non ?
Bah oui,
ça a la gueule ça. Bon, donc qu'on perde ou qu'on réussisse l'exploit, c'est une affiche de gala et c'est le match à ne pas louper. Sinon, les deux autres pays qui seront dans la poule du Canada, c'est le Chili et le Pérou. C'est deux nations qui ne sont pas dans la forme de leur vie, mais qui restent au-dessus du Canada, si on en croit le classement FIFA.
Le Chili que la France doit rencontrer dans quelques jours. Un petit pronostic ?
Vous connaissez Cyril, j'aime pas trop mouiller. Le foot est un sport trop chaotique pour que je puisse me la jouer, Madame Irma. Mais je pense que les Canucks ont une possibilité de sortir des poules et d'aller jouer la phase à élimination directe. Ça serait déjà une très bonne chose. En tout cas, c'est donc une bonne chose que le Canada joue cette Copa América sur le plan sportif, certes, comme on l'a dit, mais aussi sur le plan extra-sportif. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'au Canada, les gens jouent beaucoup au soccer. C'est un sport qui est vraiment très pratiqué. J'ai beaucoup d'amis qui y jouent. Mais pour autant, on n'arrive pas vraiment à traduire cette pratique en un engouement populaire pour l'équipe nationale de soccer, masculine et féminine. Beaucoup de Canadiens apprécient le foot et le regardent de temps à autre. Ils regardent la Ligue des Champions, ils regardent la Coupe du Monde, etc. Mais je trouve qu'en général, pas tous, pas les plus fans, pas les plus mordus, mais le fan moyen est peut-être plus au courant de ce qu'il se passe dans des clubs européens comme Liverpool ou le Real Madrid qu'au sein de l'équipe nationale. L'enjeu donc pour Canada Soccer, c'est de profiter des tournois à forte visibilité comme la Copa América pour essayer de faire connaître l'équipe aux gens et qu'on ait dans deux ans un pays qui vibre tout entier pour les joueurs au chandail rouge. Après, il faut dire qu'à Montréal et au Québec, on n'est pas très gâtés. Sur les 25 dernières années, selon mes informations, l'équipe nationale masculine est venue jouer seulement deux fois à Montréal en 2010 et en 2017. Déjà que pour certains Québécois, c'est pas forcément évident de se sentir représenté par une équipe de soccer du Canada, il va falloir en faire un petit peu plus et essayer de faire venir les joueurs à Montréal. En plus, l'équipe comporte énormément de joueurs qui en sont originaires, de Montréal ou du Québec, ou qui se sont révélés au CF Montréal. Les gardiens Max Crépeau et Jonathan Sirois, les milieux terrain Ismaël Koné, Mathieu Chouanière et Samuel Piette, les défenseurs centraux Joel Waterman, Alistair Johnson, Kamal Miller et j'en passe.
Ça me fait penser, on n'a même pas parlé des joueurs hein, dans tout ça. Là. Est-ce que deux mots quand même sur ces joueurs-là ?
Alors c'est vrai, rapidement. Donc il faut bien que je commence par Alphonso Davies. À 23 ans, c'est vraiment le talisman et le symbole de cette équipe canadienne. Il est déjà sans doute dans la discussion pour le titre de meilleur joueur de l'histoire de l'équipe masculine. Davies est un symbole, pourquoi ? Parce qu'il est né de parents libériens fuyant la guerre civile dans un camp de réfugiés au Ghana et il est arrivé au Canada à l'âge de 5 ans. C'est un joueur qui est extrêmement rapide, qui a un goût prononcé pour le dribble et un peu voilà, le showballing, si j'ose dire. Et c'est un gars qui essaye beaucoup de trucs tout le temps. Ensuite, pour moi, le deuxième meilleur joueur de l'équipe, c'est Jonathan David. Bon, je porte le maillot. Donc je suis très fan. Ça fait déjà 4 ans qu'il joue en France, à Lille, et c'est l'un des tout meilleurs attaquants du championnat français. Il est aussi rapide, mais c'est un joueur qui est fin techniquement, capable de beaucoup de choses et avec un vrai sens du but. Il marque beaucoup de buts suite à des ballons, par exemple, un peu relâchés par le gardien, qui traînent un peu dans la surface. Enfin, le temps me manque, mais je dirais que le troisième joueur que j'aimerais citer, c'est Steven Eustachio. Il est né à Leamington, en Ontario, mais il a grandi au Portugal et il joue au FC Porto, qui est, si on connaît un peu le foot portugais, l'un des plus grands clubs du pays, vainqueur de Ligue des Champions en 2004. C'est le joueur typique, petit milieu de terrain, métronome, celui qui dicte le rythme d'une rencontre et qui oriente le jeu avec efficacité, ce qui n'empêche pas non plus d'être assez impactant à la récupération.
Merci beaucoup, Paul. On va suivre ça. On est content. On va aller à la Copa América. On va rencontrer Léo Messi. Peu importe le score, mais au moins...
Il faut en profiter.
Il faut en profiter.
Ce n'est pas tous les jours.
Donc, on doit être content. Même s'il reste cette frustration-là, hein, que finalement, à Montréal, on n'aura profité de rien. Ou on ne profitera de rien.
C'est une longue histoire.
Merci, Paul. On reste à l'affût des grandes nouvelles du soccer. Voilà, on va dire le mot soccer. Et puis, on se retrouve bientôt.
Merci, Cyril.
À bientôt, Paul.
Néo-Québec, chronique.